Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Ludivine. Bonjour.
Bonjour.
Ludivine, tu es ici pour nous parler de la ferme du Champ des Cailloux que tu as créée voilà 6 ans maintenant. Et tu viens nous en parler et de présenter aussi ce que vous y faites et notamment l'herboristerie et peut-être d'autres aussi. Tu nous détailleras ça dans l'émission. La ferme du Champ des Cailloux, c'est le nom du lieu. Pourquoi ce nom ?
Ben on est en 2018, quand on est arrivé à la ferme avec mon conjoint Julien, et ben on a longtemps cherché un nom pour ce lieu. Et en fait, comme c'est installé à Champ-Queyras, on s'est intéressé à la signification du mot Champ-Queyras. Et il est apparu que c'était, ça voulait dire Champ des Cailloux. Et qu'effectivement, on avait beaucoup de cailloux dans nos champs. Et au lieu de s'en inquiéter du mot très ancien « champ des cailloux », ça aurait pu nous inquiéter alors qu'on voulait développer de la paysannerie, eh ben, on s'est plutôt dit qu'on allait trouver un côté positif à la typologie du lieu. Et on l'a appelé « champ des cailloux », mais comme les cailloux qui chantent, c'est-à-dire pas « champ », C-A-H-A-M-P, mais « champ » comme le champ, C-H-A-N-T. Voilà, donc c'est un petit jeu de mots rigolo pour nous donner du courage un peu.
Alors, 2018, vous êtes arrivé sur Die. Quelle était pour vous, à ce moment-là, cette envie de vous installer
et... Alors, avec Julien, on a longtemps bourlingué, beaucoup. Et on est arrivé dans le Diwa en 2015. Et pour refaire ensemble la formation agricole qui avait lieu au CFPPA. Et au début, on ne voulait pas du tout s'installer dans le Diwa, pas parce qu'on n'aimait pas, mais parce qu'il y avait déjà beaucoup de projets qui étaient développés et que ça nous a un peu fait peur. Et face au réchauffement climatique, pardon, on aurait voulu avoir un endroit un peu plus humide. Quelque chose... Puis moi, je suis belge, donc l'humidité, c'est un peu important pour moi quelquefois.
Il y en a beaucoup trop en ce moment, de l'eau d'ailleurs.
Ah ben nous, on est contents, moi je suis content. Je suis contente.
Non, je parle en Belgique. Là.
En Belgique, c'est problématique.
Oui, il y a beaucoup de plantations qui souffrent.
Il y a beaucoup de plantations qui souffrent trop de l'eau dans le nord, de manière générale. Mais nous, cette année, beaucoup de gens se plaignent de la pluie. Mais nous, on est assez contents parce que, très sérieusement, 2022, c'était notre première année d'installation. Et moi, j'étais en PLS. C'était vraiment très difficile, le manque d'eau. Et cette année, au moins, ça vibre. Il y a de la vie, quoi. Ici, en tout cas. Au nord, c'est plus compliqué, ouais, effectivement. Mais donc nous, quand on s'est installé, quand on est arrivé dans le Diwa en 2015, on n'avait pas le projet d'y rester. Puis la vie a fait que ce lieu de la ferme du Champ de Cailloux nous a un peu appelés. Et qu'on a répondu à cet appel et qu'on s'est installé là-bas à ce moment-là, après une formation agricole. Donc. C'était pas une passation d'activité, même si on a dû passer par la SAFER, effectivement, et qu'on était obligé d'avoir un projet agricole pour accéder aux terres. Mais on a eu de la chance, hein. C'était vraiment une histoire de bouche à oreille en fait. Et alors qu'on cherchait ailleurs, on a trouvé ce lieu quoi. Donc on a eu beaucoup de chance, ouais. Après, on avait les diplômes qui nous permettaient d'accéder au terrain et le projet qui allait avec. Et ça a été un peu compliqué, mais pour finir, on s'y est installé quoi.
Une ferme du 14e siècle.
Il y a des pans de murs. Qui date de cette période. Après, c'est une ferme où plusieurs bâtis ont été accolés. Ça devait être un ancien cabanon, mais il y a des frontons, effectivement, qui sont moyenâgeux, qu'on a pu voir dans les travaux. Et voilà, ça nous a permis de dater plus ou moins à cette période.
La ferme du Champ des Cailloux est située au sud de Die, au-dessus de Champ-Queyras, à 600 mètres d'altitude. C'est une altitude propice pour vous à cultiver ce terrain ?
600 mètres, ça reste intéressant. Après, c'est déjà un peu de l'altitude pour cultiver, mais nous, ça ne nous pose pas de problème parce que c'est des terres de vignes qui sont très exposées. Ça peut être des fois même très chaud. Et puis, comme c'est à une maison qui est assez ancienne, on a la chance d'avoir une source. Souvent, c'est une chance aussi. Et les bâtis anciens, on peut avoir confiance aussi à la capacité des anciens à avoir trouvé ce lieu et à avoir pu capter une source là-bas, ce qui permet une installation agricole aussi. Pour le moment, hein, on espère que ça va tenir, quoi. On a 1,2 hectare et on a pour le moment, un peu plus d'un hectare 2. C'est pas énorme, hein, mais nous, ça nous suffit amplement. Pour le moment, on a 1000 m² de maraîchage et 7000 m² de plantes médicinales. Et on fait aussi beaucoup de cueillettes sauvages. On a planté 600-700 arbres en 2021-2022 parce qu'on a un projet en agroforesterie. Et on voulait vraiment développer un projet avec des arbres dû aussi au réchauffement climatique et à l'appauvrissement des terres. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un projet ancré sur les arbres et ce qu'on appelle, nous maintenant, une agriculture paysanne. Ça, c'est très important pour nous. Et aussi sauvage, parce qu'on essaye de vraiment que notre impact par l'agriculture, en fait, développe la biodiversité et non l'inverse. Donc on fait aussi des relevés d'identification ornitho et entomologique, pardon, qui nous permettent d'attester que notre présence sur les terrains augmente la biodiversité. Donc pour ça, on travaille avec la LPO et avec des gens qui font ces relevés. Donc l'agroforesterie et la présence d'arbres nous permettent d'intensifier la présence des oiseaux et des insectes sur les terres.
Alors, cette exploitation, vous produisez 10% de maraîchage environ, et le reste étant des plantes médicinales. Comment transite ensuite votre production vers le consommateur?
Alors, nous, on dit qu'on coproduit, parce qu'on insiste sur le mot production est un peu gênant pour nous, comme on n'utilise pas le mot exploitation agricole. C'est important pour nous d'utiliser ces termes-là. Et le terme de la coproduction, ça veut dire qu'on produit avec le vivant et qu'on essaye de rentrer en connexion avec ça. Donc on coproduit des plantes médicinales, effectivement, et des légumes. Une partie des légumes sont vendus sur le marché par Julien le mercredi matin. Donc on a un tout petit stand qui nous permet en fait d'écouler ce que nous, on ne va pas consommer. Donc voilà, au niveau commercial, c'est pas ce type de maraîchage qui nous fait vivre. Et après, les plantes, elles ont un volet beaucoup plus important. Et on fait ce qu'on appelle du semi-gros en haut de gamme. Et on vend une grosse partie en Suisse. Et on développe un petit peu de la vente directe, mais en bouche à oreille, parce qu'il y a beaucoup de marchés qui sont déjà pris sur le Diois et aux alentours. Donc nous, on est vraiment sur du semi-gros. Moi, je ne veux pas transformer, parce que je considère que c'est encore un autre métier et que moi, je ne suis pas à même de le faire. Et on pérennise les cultures. Et après, l'idée, c'est de... Quand je parle de semi-gros, c'est que nous, on fait sécher les plantes. Enfin, on les cueille, on les monde et on les stocke, on les conditionne et on les vend chez une personne en Suisse qui achète que du haut de gamme et qui, lui, va s'occuper de les vendre à différents... pour faire des cosmétiques ou dans la gastronomie. Et donc, lui, s'occupe de ça. Moi, je ne veux pas transformer parce que ça me semble un peu compliqué pour le moment de tout faire, quoi.
Comme vous le disiez, il y a un circuit déjà bien établi au niveau de cette production de plantes médicinales hein, dans le Diois. Donc, votre nécessité de vous rendre plus loin pour distribuer votre production. Est-ce que du côté du Diois, vous avez malgré tout peut-être des personnes désireuses justement de produire aussi des cosmétiques ou des dérivés de votre production?
Donc ça serait intéressant de travailler de cette manière-là, mais il y a déjà beaucoup de gens qui le font directement. Donc oui, l'idée, ça serait de pouvoir avoir de communautariser en fait, les cueillettes de beaucoup de cueilleurs ou des plantes issues de cultures pour faire ce genre de travail sur place. Mais ça, on ne le trouve pas facilement. Il y a déjà beaucoup de labos qui le proposent, mais malheureusement, ils ne travaillent pas assez avec des plantes locales, malgré ce qu'ils peuvent en dire. Donc ça, c'est d'une part une première problématique. Et puis, ça serait intéressant, effectivement, que plusieurs cueilleurs ou plusieurs personnes qui cultivent des plantes médicinales se mettent en commun pour rassembler du matériel et travailler sur cette commercialisation. Pour le moment, ce n'est pas le cas encore dans le Diois. Donc c'est vrai qu'on pourrait travailler là-dessus, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont compliquées à mettre en place. Donc nous, c'est une facilité de travailler en semi-gros avec quelqu'un qui le fait déjà. Après, on travaille maintenant aussi avec un autre herboriste qui est dans la région, qui est du côté de Maglon. Donc cette année, on commence à travailler avec Mathieu Isoir de l'herboriste Richdan. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à mettre en place parce que c'est très risqué d'avoir qu'un client. Et que voilà, bon, les choses sont... On aimerait aussi travailler plus au niveau local, mais c'est plus compliqué parce que c'est un peu bouché au niveau des plantes médicinales dans la région.
À côté de ça, vous proposez vous-même des ventes directes à la ferme. Vous proposez des eaux florales ou des tisanes en mélange.
Oui.
Ça, c'est aussi des productions que vous distribuez peut-être ailleurs ou pas ?
Non, pas encore. Pour le moment, je fais que des ventes par Internet. Donc, je n'ai même pas de magasin en ligne, mais les gens peuvent m'appeler. Donc, il y a les produits qui sont disponibles. Effectivement, on fait des eaux florales un petit peu, un peu d'huile essentielle quand le climat et les plantes le permettent. Parce que normalement, tout est pour l'herboristerie, mais quelquefois, on peut faire des coupes intermédiaires en fonction de la chaleur ou qui nous permettent, par exemple, de les distiller. Comme moi, je travaille en parallèle dans une distillerie, ben, ça me permet aussi de pouvoir accéder à des bonnes conditions de distillation. Donc, des fois, j'en profite. Mais après, je n'ai pas un circuit commercial fixe là-dessus. Comme on fait de l'hébergement à la ferme en saison, ça me permet de vendre un petit peu à ce niveau-là.
Justement, je revenais un peu sur votre installation. Est-ce que vous avez eu des soutiens de quelque ordre que ce soit, par exemple pour accéder à ce lieu? Est-ce que vous avez eu affaire peut-être à un relier ou terre de lien, des choses?
Non, on n'a pas. Non, on est arrivé avec la SAFER et par le bouche à oreille. Et bon, la SAFER faisant office un peu d'agent immobilier hein, dans ce genre de cas, mais voilà, on a quand même dû prouver et justifier notre projet pour accéder à cette aire. Et après, j'ai un BPREA, un brevet agricole, qui me permet d'accéder aux subventions de l'État. Donc, j'ai fait une demande de subvention pour des aides à l'installation qui nous ont permis effectivement d'avoir aussi accès aussi à des crédits pour le bâtiment, des choses comme ça à mettre en place. Parce qu'au début, on ne voulait pas demander ces aides. Et puis au final, on est aussi plus réactifs et on s'est bien rendu compte que soit on allait saigner au travail pour arriver à mettre quelque chose, un outil en place et que ça allait nous prendre des années. Voilà, moi j'ai une quarantaine d'années, j'ai envie d'avancer aussi. Donc du coup, on a cédé à cette aide à l'installation agricole, qui nous a permis d'investir sur l'irrigation, sur le bâtiment agricole. Et surtout, on a fait aussi des demandes de projets de financement participatif par le biais de Mimosa, qui ont très bien fonctionné, pour accéder notamment au financement d'une cuve de 100 mètres cubes d'eau, qui nous permet de temporiser les saisons très sèches. Parce qu'on a une source, mais il faut pouvoir stocker l'eau pour les périodes difficiles. Donc, le projet Mimosa et ce projet de financement collectif nous a permis d'accéder à ça, oui, effectivement.
Est-ce qu'il y a, juste à part, est-ce qu'il y a un regard aussi des pouvoirs sur cet accès à l'eau? Est-ce que vous avez eu des justifications à devoir fournir?
Oui, on a dû faire une demande et on est censé avoir un compteur d'eau qui mesure l'eau qu'on capte, ce qui est logique. Mais nous, on est en dessous, en fait, quand on est en dessous de 100 mètres cubes par an, on n'a pas de justificatif à rendre, je crois. Il faut enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je crois que les chiffres, c'est ça. Donc, quand on n'a pas plus de 100 mètres cubes, il n'y a pas des justificatifs supplémentaires. Et nous, on a plusieurs captages, hein, parce que la maison n'est pas reliée à l'eau de ville. Donc, même pour la maison, pour notre consommation, on est sur l'eau de source.
Je reviens ensuite à votre production d'herboristerie. Ce sont des plantes propices aussi au type de terrain que vous avez, c'est-à-dire plus ou moins arides.
Oui, alors évidemment, l'idée du type d'agriculture, d'agriculture ou de paysannerie qu'on va défendre, c'est qu'on travaille sur des plantes locales. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de cueillettes sauvages. Et puis après, les plantes qu'on a choisies, on les a vraiment... C'est-à-dire que même sur un petit terrain de 7000 m², il y a des zones qui ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des zones qui vont être... On ne peut pas parler de limoneuses dans le Diois, mais qui vont être un peu plus drainantes. Donc là, on a mis plutôt des menthes ou des plantes qui vont être associées à ça. On les associe aussi avec un peu plus d'ombrage, par exemple. Et puis sur des façades plus caillouteuses ou marneuses, on a mis des thyms. Et pour ça, on s'est vraiment inspiré des plantes bio-indicatrices. Donc ça, c'est aussi les plantes qui sont sur le lieu avant qu'on y développe des cultures. Donc on a cherché, on a fait des relevés de ces plantes pour nous inspirer en fait de la mise en place de ces parcelles. Donc nous, on a une quinzaine de plantes différentes en culture. Donc voilà. Et les plantes qui ont besoin vraiment d'un sol plus organique, plus humifère, eh ben, on les a mis dans le maraîchage. On est en train de les placer dans la zone maraîchère qui a été en fait amendée avec de la matière organique et par le sol vivant durant des années déjà. Parce que depuis 2018, bah, y a ces parcelles de maraîchage. On a commencé avec le maraîchage. Et aujourd'hui, le terrain a été relativement amélioré. Enfin, il est plus humifère, en tout cas. Et là, on va y mettre des plantes qui vont avoir plus besoin de ce terrain-là. Donc là, on met des plantes qui ont besoin d'un sol moins aride. Mais on a des thyms, des lavandes, des hélichryses, des thyms citrons, des serpolets qui vont être sur les façades plutôt comment dire, marneuses et caillouteuses. Qui sont très exposés sud. Et là, on les a mis en association avec des argousiers, par exemple, qui sont vraiment des plantes de milieu aride. Après, voilà, on a aussi des camomilles et des verveines et des menthes qui ont été mis sur un sol qui va être plus un petit peu plus humifère et qu'on a amendé à l'installation des plantes.
C'est peut-être un peu court, 6 ans. Est-ce que vous avez, ou est-ce que vous pensez que des nouvelles plantes, en fonction de ce changement climatique, pourraient s'adapter aussi sur ces terres du Diwa?
Alors là, on a une réflexion effectivement sur le fait que on a quand même un peu moins de gelée hivernale. Par exemple, moi cette année j'ai réussi à garder des verveines avec une couverture végétale. Et un voile de forçage. Elles ont passé l'hiver parce qu'on a eu moins de gel. Les géraniums rosa aussi, comme j'ai des parcelles assez bien exposées, j'arrive à les garder. Elles passent l'hiver. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc oui, il y a une réflexion là-dessus. Il y a une réflexion aussi sur les apports d'eau naturels. Parce que nous, on a l'opportunité de stocker de l'eau, mais l'idée, ce n'est pas d'en stocker de manière à faire vivre des plantes qui ne sont pas adaptées au sol. Et l'idée, c'est d'aller effectivement vers des plantes qui sont plus résistantes à la sécheresse, évidemment. Même si nous, on a l'espoir que les arbres rapportent en fait une structure de sol plus organique et de l'évapotranspiration, donc plus d'humidité. Mais ça, on pourra en reparler peut-être dans 20 ans, dans 30 ans. Donc ça sera même peut-être plus pour nous, pour moi et mon conjoint, mais pour les générations futures. Donc ça, on pourra le voir à ce moment-là. Mais en attendant, nous, on a des réflexions sur des plantes comme des cistes, pour l'huile essentielle, par exemple, qui sont des plantes qui normalement, sont vraiment des plantes de garrigue, effectivement, et qu'on devra peut-être couvrir pour être sûr qu'elles passent l'hiver. Mais on a des réflexions là-dessus. Ou sur des aunées, ce sont des plantes qui résistent mieux au sec. Donc oui, il y a ces réflexions-là qui sont dans nos têtes, effectivement.
L'estragon, est-ce que c'est facile à cultiver ou pas?
Nous, on fait de l'estragon, ouais. Pour nous, c'est assez simple. Après, elles sont dans les zones maraîchères qui sont un peu plus humifères. Mais oui, l'estragon fonctionne bien, ouais.
Il y a aussi les arbres. Vous en avez planté plusieurs centaines. Des essences particulières ou des fruitiers?
On a mis des fruitiers. On avait l'ambition de mettre plus de fruitiers. Et en fait, quand on a vu que ça se réchauffait, que ça nous demandait trop d'eau, on a laissé tomber l'idée des fruitiers, en tout cas pour la consommation. Et donc, on est passé sur de l'amandier, sur des variétés plus tardives pour éviter les gels de printemps. Parce que malgré le réchauffement, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir des gels, surtout à 600 mètres, qui sont en début de saison. Donc, il y a des amandiers d'espèces locales. Et c'est justement en se promenant régulièrement dans la zone où on habite qu'on a vu qu'il y avait des amandiers très anciens qui étaient là. Et qu'on s'est dit, l'amandier, c'est bien. Parce que la majorité des amandes qu'on achète aujourd'hui, elles ne viennent plus des zones du sud de la France. Donc au début, on s'était dit ça. Et puis en fait, on a mis des amandiers déjà pour notre consommation personnelle. Et aussi parce que c'est des arbres qui supportent bien le sec. Et ensuite, on a mis des tilleuls. Et on a des tilleuls aussi parce que pour l'herboristerie, c'est intéressant. C'est des plantes qui faisaient partie du paysage, hein, notamment des baronnies provençales et du Diwa à l'époque, qu'on cueillait régulièrement. Donc la paysannerie ancienne, en tout cas, faisait appel à ce type d'arbres, donc on en a mis. On a mis des argousiers. Pourquoi? Parce que dans les zones marneuses du Diwa, on trouve des argousiers, encore aujourd'hui, hein, dans la région d'Ausson, sur des coteaux très, très, très marneux, il y a beaucoup d'argousiers. Donc on en a mis aussi parce qu'on les a observés autour de nous et que c'est des arbres qui produisent des baies qui peuvent être intéressantes aussi pour notre consommation et pour la vente. Et ensuite, dans les haies, on a mis des arbres qui sont des essences que locales. On a travaillé avec des pépinières locales là-dessus. Et on a mis des arbres issus de graines, de manière à ce qu'ils aient une meilleure résistance. Et des arbres qu'on espère aussi pouvoir collecter dans quelques temps.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
la radio du Diwa.
107.5,
101.7,
FM.
Vous parliez tout à l'heure de biodiversité, hein, le respect de la biodiversité. Est-ce que ça se concrétise aussi par la vision d'animaux aussi, ou qui viennent se servir chez vous parfois ?
Alors, on a des animaux qui viennent se servir naturellement et on le voit dans les relevés ornitho qu'on fait sur place. Et sur les relevés d'entomologie, hein, les uns allant avec les autres. Pendant un temps, on a espéré garder les espaces ouverts. Donc on évite de trop clôturer, parce qu'on a des points d'eau aussi sur la ferme qui sont importants pour la faune locale. Mais bon, cette année, malgré tout, on a eu un peu de problèmes avec les sangliers. C'était pas dramatique, mais on sait qu'ils passent. Donc voilà, on a quand même sécurisé des zones. Donc il y a de la faune locale, effectivement. Et après, nous, on a une attention particulière à la faune domestique, hein. Donc on a des moutons qui nous aident à entretenir les zones d'enherbement. On a deux moutons d'Ouessant, qui sont des tout petits moutons très légers, donc qui vont avoir des passages. On fait appel à l'éco-pastoralisme aussi, de temps en temps. On a des chevaux. Bon, les chevaux ne passent pas sur les parcelles cultivées, hein, ils sont trop lourds. Mais on a aussi des poulets, des canards qu'on espère aussi mettre dans le maraîchage, qu'on met un petit peu pour le moment, mais on n'est pas encore assez, assez pointueux sur les espaces où ils peuvent aller et où ils ne peuvent pas aller. Parce que les canards, c'est bien, mais ça peut quand même faire des dégâts. On a des poules pour les œufs. Et voilà. Donc ça, c'est aussi une petite vie locale qui nous semble importante au niveau de la faune, des animaux, quoi.
Vous parliez de la LPO,
oui.
Avec qui vous avez contact. Est-ce que, vous, justement, vous êtes parfois missionné à titre d'observateur
Cette année, ils sont venus faire des relevés sur les parcelles, notamment pour les batraciens, parce qu'on a mis deux mares et on a fait une demande pour travailler à la LPO pour en mettre une troisième qui serait beaucoup plus grande. Et donc là, on a eu des relevés avec la LPO, mais surtout, on travaille avec, en fait, notre principal client, qui est un client suisse, et ben, lui, il vient faire des relevés tous les ans sur nos parcelles. Et donc, c'est un spécialiste des oiseaux. Et il a mis en place un cahier des charges. Et on cumule un certain nombre de points de biodiversité pour travailler avec cette boîte d'herboristerie. Eux, cette entreprise, on peut ne travailler avec eux que s'il y a la présence de certains oiseaux, la présence de certains insectes et de certaines plantes bio-indicatrices qui sont relevées tous les ans et qui sont en vue d'une augmentation. Ou en tout cas d'une augmentation des échanges vivants sur les parcelles. Et voilà, et donc si on n'a pas ça, soit ils nous aident à l'acquérir, soit ils ne veulent pas travailler avec nous.
Alors, toute cette aire produise, et pour cela il y a nécessité aussi de construire des outils comme de quoi sécher, hein, la production. D'ailleurs, vous utilisez des capteurs solaires, hein, pour permettre ce séchage. Donc, vous êtes tourné aussi sur la bioénergie pour...
On essaye. Après, c'est compliqué parce qu'il faut des moyens et d'investissements qui sont importants. Pour le captage solaire, c'est la DGA qui nous a permis d'installer les capteurs. Ça nous a permis d'installer un séchoir nouvelle génération. Alors, nouvelle génération, c'est beaucoup dur. En fait, on fait du captage sous toiture. Donc on a créé des lames d'air chaud, donc on récupère l'air chaud avec des extracteurs qui sont réinjectés dans le système de séchage. Et tout le système de ventilation est effectivement relié à des panneaux solaires. Donc on essaye, ouais, dans le plus possible.
Toutes ces connaissances, vous les avez acquises lors de vos formations, avec votre conjoint peut-être aussi. Mais est-ce que vous aviez des racines antérieurement?
Alors moi, je suis pas originaire du Diwa, je viens de Belgique et puis j'ai beaucoup bourlingué avant. Moi, je viens d'une famille, j'ai été élevée notamment dans une famille où ma grand-mère vivait avec nous. Et ma grand-mère, elle était paysanne et elle cultivait des plantes, elle les ramassait. Donc ça vient de là aussi, cet engouement pour ce travail. Enfin, je faisais partie un peu d'un univers paysan depuis que j'étais petite. Et j'ai eu la chance d'avoir grandi dans la nature, avec ses connaissances qui m'étaient apportées par elle. Donc, c'est oui. Effectivement, ça a aidé. Par la suite, moi, j'ai fait des études qui étaient plutôt dans le milieu artistique et culturel, mais qui étaient toujours liées à la culture paysanne. Donc, ça m'a un peu dirigée pendant toutes mes études à l'université. Et par la suite, j'ai voyagé, j'ai participé à des projets avec les compagnons bâtisseurs autour de l'environnement, la sensibilisation à l'environnement. dans différents pays du monde. Et je me suis formée en permaculture en Amérique du Sud pendant un an, avant de revenir ici. Et puis, j'ai travaillé dans des jardins partagés. Puis, j'ai été ouvrière agricole pendant longtemps. Voilà. Donc, tout ça a fait que le projet qu'on a aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement, en fait, d'années de vagabondage et aussi des racines que j'ai cultivées quand j'étais enfant, ouais, effectivement. Ouais.
Ça a été une découverte, la permaculture, pour vous?
Oui, ça a été une découverte parce que je suis partie en Amérique du Sud avec mon sac à dos et je ne savais pas du tout...
Étiez quand même partie en Amérique du Sud sur des idées de culture.
Je voulais faire du woofing, c'était le début du woofing, on n'en parlait pas trop. Moi, je parle de ça il y a 15 ans. Et le woofing, ce n'était pas encore très, très développé, à part dans d'autres pays du monde. Moi, j'avais participé, grâce aux compagnons bâtisseurs, à des projets collectifs autour de l'environnement. Et donc, j'avais dans l'idée de continuer à faire ça, mais je voulais sortir de l'association. Et donc, du coup, je suis partie là-bas avec cette idée de faire du woofing. Et je suis arrivée en Amérique du Sud chez un monsieur qui développait des projets de permaculture. Mais moi, j'avais regardé la définition sur Wikipédia. Je dirais, à 15 ans, la permaculture, je ne savais pas ce que c'était. Et le mot m'avait plu et j'avais regardé. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans ce type de projet qui a été très inspirant pour moi à l'époque. Effectivement. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Ouais.
Et votre formation théorique et pratique, peut-être, qui vous a délivré ce diplôme, pour vous, ça se passait où?
Mais moi, je l'ai fait au CFPPA de Die.
Oui.
Et puis, j'ai fait une partie à Nyons, spécialisée dans les plantes médicinales. Après, le bagage était intéressant, les stages étaient super intéressants, mais... C'était facilité par le fait que moi et Julien, on avait déjà une expérience déjà en tant qu'ouvrier agricole. Et moi, comme j'avais travaillé à l'université sur le lien entre la culture et la paysannerie, j'avais déjà un peu une idée. Donc voilà, il y avait tout ça qui était un peu déjà un peu jalonné, on va dire.
Il y a de la théorie quand même, ou c'est plus de la pratique au CFPPA.
Il y a quand même une partie théorique. C'est ce que regrettent beaucoup les gens qui arrivent et qui n'ont pas d'expérience de terrain, c'est qu'il y a beaucoup de théories. Mais moi, je ne trouve pas ça gênant. Mais après, effectivement, pour se lancer dans un projet, je pense qu'il faut avoir l'expérience du terrain aussi. Enfin, c'est un plus, quoi. C'est sûr que même au niveau des efforts physiques, de tout ce que ça demande de temps et, je dirais, de morale et de disposition mentale, c'est... important d'avoir l'expérience de terrain. Ouais.
Est-ce que vous utilisez des engins motorisés ou alors tout est fait au plus naturel?
Alors nous, au début, on avait, malgré notre expérience de terrain, l'ambition de faire tout manuellement. Parce qu'en plus, on était, il y a encore quelques années, vraiment dans les techniques de sol vivant, on était vraiment très inspirés par ça. Aujourd'hui, on est toujours inspiré par les techniques de sol vivant, mais on mécanise un petit peu. C'est-à-dire que quelquefois, le sol du Diwa, il est quand même très argileux. Les techniques de sol vivant, ça, on n'a pas encore réussi à bien trouver des méthodologies qui nous permettent de travailler de manière dogmatique, on va dire, autour de ça. Du coup, quelquefois, on utilise le motoculteur quand les engrais verts ont pas bien fonctionné ou qu'on est un peu en retard sur certaines choses, on peut mécaniser un petit peu.
Ça, c'est pour le maraîchage?
C'est pour le maraîchage, oui.
D'accord. Vous parliez de chevaux et vous disiez qu'ils sont trop lourds pour pratiquer,
non,
peut-être?
Non, moi, j'ai fait une formation... J'ai travaillé beaucoup avec des chevaux et j'ai fait une formation en travail hippomobile et notamment en travail du sol avec des chevaux. Mais nous, on a des terrains qui sont très pentus, d'une part, et d'autre part, qui sont trop courts. C'est-à-dire qu'on a des très petites surfaces et avec des chevaux, ça justifie un entretien qui est ponctuel et des chevaux qui vont du coup pas beaucoup travailler. Ça va leur demander beaucoup d'efforts de travailler en côte. Et puis les terrains sont assez courts pour pouvoir faire demi-tour, donc c'est vraiment très pragmatique. Mais on y pense. Après, comme on est en sol vivant, souvent le matériel d'attelage n'est pas adapté pour le sol vivant. Ça commence à évoluer, ça. Donc, peut-être dans quelques années, on pourrait faire appel au service d'autres personnes avec des chevaux. Ça, c'est une idée. Voilà.
Et puis, comme vous l'écrivez, quand la météo le permet, vous procédez à des distillations ou de préparation d'eau florale ou d'huiles essentielles, pardon. Ça se pratique en public ou dans un cadre pédagogique parfois ou peut-être aussi convivial?
Alors, Nous, souvent, quand on fait ça, c'est que quand je dis que la météo le permet, c'est qu'on va, on a deux coupes en herbeau quand on a de la chance. Et bon, c'est pas toujours le cas, donc on va faire une coupe au printemps. Et puis les plantes, elles vont continuer à pousser. Et en seconde coupe, quand il y a assez de végétal, on peut imaginer en juillet-août, notamment sur les menthes par exemple, faire une distillation. Donc, ou sur les camomilles. Ce qu'on fait, moi je suis pluriactive aussi. Donc je travaille à la ferme, mais je travaille aussi à la distillerie des Quatre Vallées à Chamaloc. Et donc j'ai l'accès à la distillation là-bas. Donc je distille dans ce lieu. Et donc on le fait avec des amis qui viennent nous aider. Mais on ne le fait pas dans le cadre d'ateliers. Par contre, j'anime des ateliers de distillation à l'ancienne et d'autres types d'ateliers à la distillerie des Quatre Vallées tout l'été et à la demande sur réservation. Donc là, on a un programme d'ateliers.
Dans la distillation, il y a des règles bien établies hein, pour les cuissons, pour les taux d'alcool peut-être. Est-ce que c'est une science précise à laquelle vous vous conformez ou alors parfois vous laissez aller aussi à votre part de création ?
Dans la distillation, non. La distillation, c'est un art très ancien et assez précis au final. Et là, moi, je fais confiance à mes collègues à la distillerie. Je n'ai pas énormément d'expérience, même si j'ai une formation en distillation pour les huiles essentielles et que je connais l'histoire de la distillation et des alambics parce que c'est quelque chose que je développe dans les ateliers. Je n'ai pas énormément d'expérience. Je distille un petit peu, mais depuis seulement, 6 ou 7 ans. Donc, voilà, Je me forme encore, on va dire.
Et pour ces prochains temps, vous organisez parfois des moments de formation ou des stages ?
Alors, on a l'ambition de mettre ça en place à la ferme. D'ailleurs, sur le site internet, vous pouvez voir que j'ai développé les ateliers et différents types d'ateliers à la ferme qui seront, on l'espère, mis en place d'ici cet automne. Et sinon, moi, j'anime des ateliers depuis 7 ans maintenant en collaboration avec la distillerie des Quatre Vallées. Et donc là, en été, par exemple, je propose 3 types d'ateliers. Il y a des ateliers distillation à l'ancienne. Donc là, j'emmène les gens faire une coupe à la faucille comme à l'époque. On fait tout comme dans les années 20. Donc on va couper des lavandes à la faucille dans les champs. On les ramène à l'alambic. On les distille ensemble dans un alambic mobile, le même qu'on utilisait dans les distillations en bout de champ du début du siècle. Et les gens repartent avec une petite fiole d'huile. C'est des ateliers qui durent en moyenne 2 heures, 2 heures et demie, qui sont très familiaux, c'est vraiment très ludique. On fait ça tous ensemble. Et donc là, on se remet vraiment dans l'ambiance de l'époque. Donc il y a ça comme atelier. Il y a un autre atelier qu'on a mis en place depuis cette année, qui est un atelier d'initiation à l'aromathérapie et à l'aromathérapie familiale, où on encadre les gens autour de l'utilisation des huiles essentielles. Autour des posologies, autour de leur possible dangerosité, donc vraiment la manière de les utiliser, mais où on va parler aussi pendant une heure de l'histoire des huiles essentielles et l'histoire de l'alambisation dans l'histoire de l'humanité. Donc on a vraiment une entrée en matière historique et après un atelier pratique où les gens font avec moi et où ils repartent avec une petite recette parmi 4 préparations différentes. Donc la préparation qui leur va le mieux. Donc ça dure aussi 2 heures. C'est sur réservation en fonction des horaires des gens où c'est les mardis matins, par exemple. Et après, je propose une balade botanique autour de l'histoire de la lavande pendant la floraison de la lavande. Donc là, qui a lieu les mardis soirs, par exemple. Enfin, tous les horaires sont en ligne sur le site de la distillerie des Quatre Vallées. Donc ça, je le fais tout l'été, de juin à octobre. Voilà. Et à la maison, j'aimerais développer, et à la demande, en fait, sur des lieux à la convenance des gens, en fait, les ateliers aromathérapie, qui, eux, peuvent être adaptés au type de public. Ça peut être vraiment la réponse à une demande professionnelle, par exemple, des sophrologues ou des gens qui ont besoin de l'utilisation des huiles essentielles à un niveau plutôt émotionnel. Ben, on peut le penser comme ça et voir ensemble. Ça peut être comment on utilise des huiles essentielles, les huiles essentielles qui sont réservées aux enfants. Ben, comment on les adapte, ou plutôt les eaux florales dans le cadre des jeunes enfants, par exemple. Ben voilà, ça peut être adapté, quoi. Et ça, je peux le proposer à la demande.
Est-ce que, pour vous, l'avenir semble radieux ?
Est-ce que l'avenir semble radieux ? Oui, moi, je pense que la vie et la planète, elle a une résilience monumentale. Et qu'évidemment, il faut faire très attention à ce qu'on en fait. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que ça pourrait paraître très déprimant pour certaines personnes, mais qu'avec ou sans l'humanité, la vie reprendra son cours, en fait. Et que moi, j'y sois ou j'y sois pas, ça me fait plaisir de le savoir.
Ludivine, merci d'être venue sur Air du Bois. Je rappelle aussi votre site internet, La Ferme du Champ des Cailloux, où on peut découvrir vos activités. Et puis, écoutez, je crois qu'on peut se dire bonne soirée.
Bonne soirée, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. When I fall, please carry me under the yellow peach tree where bad omens stop scaring me and I'm home, heartbroken and free. Now if you see my neighbor, tell her I drove down to the LA River, where the waters are brown. When I fold, please carry me under the yellow peach tree, where bad omens stop scaring me and I'm remaining hue. As the sun is sinking, is of the deepest blue. When I fold, please carry me under the yellow peach tree where bad omens stop scaring me and I'm home. Heartbroken and free, heartbroken and free. I'm going home to my baby, Los Angeles. Some are bound to suffer and others aim to please. When I fold, please carry me under the yellow peach tree where bad omens stop scaring me and I'm